réveil si vous nous rejoignez, le journal Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Guerre et justice à la une de ce journal ce matin à propos de la Syrie. D'abord, une énième conférence pour un cessez-le-feu se tient aujourd'hui à Munich. Et pendant ce temps, des blessés graves fuient la bataille d'Alep, accueillie à la frontière turque où nous irons.
L'Allemagne, elle, veut que justice soit faite, même 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un ancien gardien d'Auschwitz comparaît à partir d'aujourd'hui.
En France, la course à l'Élysée est lancée avec l'attente d'un remaniement, un gouvernement de combat pour la dernière année de mandat de François Hollande. De son côté, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature pour 2017, un nouveau tacle pour la primaire à gauche.
La lutte contre l'échec scolaire rapporte davantage qu'elle ne coûte, c'est la conclusion d'un rapport de l'OCDE.
Et la grande conférence de la santé, le gouvernement tente de se réconcilier avec les médecins qui ne l'entendent pas ainsi. Ils boycottent et organisent en même temps leurs assises. Mais commençons le journal par un procès pour l'histoire, le procès de Reinhold Hanning, un ancien gardien d'Auschwitz, aujourd'hui âgé de 94 ans. À partir d'aujourd'hui, à Detmold, dans l'ouest de l'Allemagne, il va comparaître pour complicité dans la mort de dizaines de milliers de personnes. Plus de 70 ans après la libération du camp, le pays ne renonce pas à faire passer la justice. C'est une correspondance de Cyril Sauvageau.
Ils ne sont plus qu'une poignée à pouvoir encore comparaître. Des vieillards de 93 à 95 ans qui couleraient des jours paisibles si la condamnation d'un ancien gardien de Sobibor en 2011 n'avait pas relancé la chasse aux derniers nazis. Au même titre qu'Oskar Gröning, ce trésorier d'Auschwitz condamné à 4 ans de prison l'an passé, l'homme qui se présentera ce matin devant le tribunal de Detmold n'a joué qu'un rôle secondaire dans la solution finale. Engagé dans les Waffen-SS, mobilisé sur le front russe, Reinhold Hanning se retrouve gardien à Auschwitz en 42 et membre des Totenkopf, l'unité SS du camp nazi. Une complicité bien suffisante, estiment les parties civiles, pour répondre 71 ans plus tard de la mort d'au moins 170 000 personnes. Reinhold Hanning encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. À la fin du mois, un autre gardien, Hubert Zafke, 95 ans, comparaîtra à son tour. À chaque fois, des dizaines de rescapés ou leurs descendants font le voyage jusqu'en Allemagne. Une dernière chance de voir juger les bourreaux ou tout du moins leurs complices avant qu'il ne soit trop tard.
Cyril Sauvageau à Berlin pour France Culture. Condamner les bourreaux, le bourreau. La prison à perpétuité a été requise hier par le tribunal africain qui juge en ce moment l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, l'autocrate poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, serait responsable de la disparition de près de 40 000 opposants. Le réquisitoire a duré près de 7 heures hier dans ce procès inédit qui se tient à Dakar, au Sénégal, depuis l'été dernier. Aujourd'hui, place aux plaidoiries de la défense. Les avocats d'Hissène Habré ont l'intention de réclamer l'acquittement. Justice sera-t-elle rendue un jour en Syrie? On en est très loin d'abord de la résolution d'une guerre qui dure depuis près de 5 ans. Aujourd'hui se tient à Munich, en Allemagne, une réunion internationale pour tenter d'imposer un cessez-le-feu. Les États-Unis et leurs alliés veulent mettre la pression sur la Russie pour que l'aviation de Moscou cesse les raids aériens. Moscou soutient le régime d'Assad, notamment ces derniers jours dans l'offensive meurtrière sur Alep. Depuis le début du mois, la bataille d'Alep aurait tué au moins 500 personnes et pousser des dizaines de milliers de Syriens à fuir, principalement vers la frontière turque au nord, une frontière désespérément fermée. Sauf pour les blessés les plus graves, évacués vers la ville turque de Kilis, où s'est rendu notre envoyé spécial, Géraldine Allot.
C'est un centre de rééducation pour les blessés syriens. Il a ouvert il y a 2 ans, spécialisé dans les soins post-opératoires. Avec la bataille d'Alep qui fait rage, le nombre de blessés ne cesse d'augmenter, la gravité des blessures aussi. Hassan Farouk, un commandant de l'armée syrienne libre, est arrivé ici la semaine dernière.
J'ai été blessé à Alep, au QG de mon unité. 8 de mes hommes sont morts dans ce bombardement mené par les Russes. On est 2 à avoir survécu. J'ai été blessé par des éclats d'obus à la colonne vertébrale. J'ai subi 2 opérations ici à Kilis. La situation est catastrophique. Alep est quasiment assiégée par le régime.
Assad Ahmad est le responsable du centre. Il fait l'aller-retour toutes les semaines entre la Turquie et le nord d'Alep grâce à un laissez-passer officieux des autorités turques.
Dans les zones bombardées quotidiennement par le régime et les Russes, quasiment tous les civils ont fui, principalement vers le nord, vers la frontière turque. Et dans les autres parties d'Alep, les gens s'attendent à être bombardés. Il n'y a pas d'autre option pour eux. Dans l'est d'Alep, il y a 2 cas de figure. Soit votre quartier est entièrement détruit, soit il ne va pas tarder à l'être.
Dans son petit centre de rééducation, avec des moyens dérisoires, Assad Ahmad tente de réparer les survivants, les rares survivants qui arrivent jusqu'à lui.
Voilà le reportage de Géraldine Allo à Kilis en Turquie.
8h05 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier. La guerre en Syrie, c'est un gros dossier que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, va laisser à son successeur.
Le départ de Laurent Fabius a été officiellement confirmé hier. Il va quitter le Quai d'Orsay pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel. Son départ doit donner le coup d'envoi d'un remaniement ministériel. Dernière manœuvre possible pour François Hollande à un an de la prochaine présidentielle. Le président de la République est d'ailleurs annoncé ce soir, dans les 20h de TF1 et France 2, interrogé de l'Élysée sur ce remaniement, certainement, mais aussi sur l'adoption, hier, en première lecture, du projet de réforme constitutionnelle. Projet, finalement, adopté avec une confortable majorité, les 3/5 acquis, en tout cas au Palais Bourbon. Le texte va poursuivre son parcours au Sénat. Il doit être voté conforme, dans les mêmes termes, pour être ensuite présenté au Congrès à Versailles, où les 3/5 des parlementaires, cette fois, sont requis pour pouvoir modifier la Constitution. La politique ce matin, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon dans la course pour la présidentielle 2017. Il a officialisé sa candidature hier soir sur le plateau du JT de TF1 avant de mettre en ligne son site de campagne. Un départ très tôt et un pied de nez à ceux à gauche favorables à une primaire. Les précisions de Pauline Renoir.
Plan caméra fixe et référence à Jean Jaurès en arrière-plan. Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature dans une vidéo publiée sur son site de campagne tout neuf. D'entrée de jeu, il pointe du doigt ses deux chevaux de bataille.
En 2017, un nouveau traité européen va être proposé. En 2017, le projet de marché commun entre les États-Unis et l'Europe va être finalisé. Et il n'est pas prévu de vous demander votre avis. Il n'est pas prévu de demander au peuple ce qu'il en pense.
Le grand ennemi du cofondateur du parti de gauche, c'est TAFTA, le projet de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Jean-Luc Mélenchon s'est fait connaître pour ses idées souverainistes. Il est d'ailleurs opposé à l'engagement de la France en Syrie et en Afrique.
Notre pays peut devenir un pays indépendant. Cela dépend de nous, indépendant en Europe, indépendant dans le monde. Et non pas cette machine de guerre que l'on voit aller d'un front à l'autre, dans des alliances improbables et pour des causes incertaines.
Aux dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon attire 11% des voix avec derrière lui le Front de gauche. Cette fois pourtant, sa candidature n'a été ni proposée ni discutée avec les représentants du parti.
Au début, vous verrez, on nous regardera un peu de haut. Et puis après, je sais que c'est la force du nombre, de l'élan, de l'enthousiasme des citoyens qui fait la différence.
Cette candidature surprise éloigne un peu plus la possibilité d'une primaire unissant toute la gauche.
C'était l'une des priorités du candidat Hollande en 2012, la jeunesse. Et voilà un rapport qui brise aujourd'hui certaines idées reçues à propos des jeunes en échec scolaire. On peut penser parfois qu'ils coûtent cher à la société. L'OCDE répond c'est faux et c'est même l'inverse. La lutte contre l'échec scolaire, selon l'Organisation de coopération et de développement, rapporte davantage qu'elle ne coûte. Et de noter qu'en 10 ans, la plupart des pays du monde n'ont pas progressé en matière d'éducation et leur croissance en a été amoindrie. L'OCDE va au-delà là et dresse des recommandations au gouvernement. Élodie Fauré.
Elle leur recommande de mettre les moyens nécessaires, financiers et humains, pour que tous les élèves sortent de l'école avec un niveau suffisant en maths, en écriture, en lecture. En mathématiques, par exemple, c'est de savoir multiplier, soustraire, de comprendre les concepts fondamentaux. Un niveau élémentaire qui n'est pas atteint aujourd'hui par plus d'un quart des élèves âgés de 15 ans dans les 64 pays du globe étudiés par l'OCDE. Et c'est vraiment dommage, car selon les calculs de l'organisation, si d'ici 2030, chaque élève sortait de l'école avec un minimum de compétences, les pays à revenus élevés comme la France pourraient multiplier par 1,5 leur PIB actuel. Sur 80 ans, ça multiplierait ce PIB de 16% jusqu'à 28% dans des pays plus pauvres. Ces chiffres de l'OCDE confortent l'avis de nombreux économistes qui font le lien entre la croissance économique et les investissements dans l'éducation. Un lien qui ne va pas forcément de soi, car c'est très difficile à calculer de séparer le facteur éducatif des investissements dans la santé ou encore dans les infrastructures. Parce qu'il y a aussi des contre-exemples. L'économiste coréen et professeur à Cambridge, Ah-Joon Chang, donne le cas de Taïwan qui, dans les années 60, avait un taux d'alphabétisation de 54% contre 72% aux Philippines. C'est pourtant bien les Taïwanais et non les Philippins qui ont réussi depuis une croissance spectaculaire. L'éducation, ironise-t-il, aide à faire des hommes honnêtes, mais pas forcément des salariés ultra-productifs.
Le gouvernement au chevet du monde de la santé. Une grande conférence est organisée aujourd'hui avec les principaux acteurs du secteur. Conférence décidée au moment des grandes manifestations des médecins contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Épreuve que les tensions sont toujours bien réelles. Les syndicats de médecins libéraux vont boycotter et organiser au même moment leurs assises. Ce que MG France, principal syndicat de généralistes, pointe du doigt, c'est beaucoup trop de discours, des politiques, des promesses et une administration trop lourde pour pouvoir mettre en œuvre les réformes. Le docteur Claude Lécher est le président de MG France.
Nous sommes à peu près tous d'accord, y compris d'ailleurs avec un certain nombre d'experts extérieurs à notre métier, sur la façon dont devrait évoluer le système de santé, et notamment vers une utilisation plus large des soins ambulatoires, c'est-à-dire on soigne les gens à leur domicile, et une dépense hospitalière moins importante. Parce que la France se caractérise par un excès de dépenses hospitalières par rapport aux autres pays européens. Et nous savons donc à peu près tous ce qu'il faudrait faire. Marisol Touraine avait d'ailleurs utilisé un terme qui est le virage ambulatoire, qui est un terme qui nous convient parfaitement. Mais le problème, c'est que nous ne voyons rien arriver de concret comme investissement sur les soins de proximité, et en particulier sur ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire les soins organisés en équipe autour du patient avec le médecin généraliste traitant comme coordonnateur du dispositif. Et c'est cette absence de mise en œuvre des annonces qui, à la fin, fait que nous ne croyons plus au discours politique. Et je pense d'ailleurs que la population est à peu près dans le même état d'esprit. On nous annonce des choses, on ne les voit pas arriver parce que précisément, le politique aujourd'hui n'a plus la capacité de mettre en œuvre ce qu'il prétend vouloir faire.
Le président du syndicat MG France, Claude Lécher, il répondait à Aurélie Kiefer. C'est un autre secteur inquiet, les agriculteurs, malgré le plan de sauvetage de l'élevage de plus de 800 millions d'euros mis sur la table par le ministre Stéphane Le Foll et des discussions ouvertes avec la grande distribution, le malaise se poursuit. La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, a présenté hier son programme pour tenter de sortir de la crise. Un programme, sans surprise, orienté contre l'agriculture productiviste et proche de celui du gouvernement, Anne-Laure Chouin.
Pour résoudre la crise laitière et porcine, les solutions prônées par la Confédération paysanne ressemblent à celles que Stéphane Le Foll a inscrites dans un mémorandum transmis il y a quelques jours à la Commission européenne. Pour le lait, le syndicat propose de différencier les prix selon que la production est valorisée ou non sur un marché rémunérateur. Il se trouve qu'en France, 90% du lait produit est destiné à des marchés à forte valeur ajoutée. Les 10 autres partent à l'export. Or, c'est toute la production laitière qui subit la volatilité des cours mondiaux. Cela doit cesser. Le syndicat réclame également la mise en place d'un tunnel des prix du lait. Lorsque le prix est haut, on peut autoriser à produire plus. Quand il est trop bas, on demande aux producteurs de produire moins pour assainir le marché. Pour le porc, les solutions imaginées seraient peu ou prou les mêmes, stocker les carcasses en cas de surproduction et réguler la production au niveau européen. Bref, réintroduire des mécanismes de régulation abandonnés petit à petit par l'Europe. De façon générale, estime le porte-parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel, il faut que la puissance publique revoie l'allocation des aides et les destine à des secteurs où la demande existe, mais où la production ne suit pas toujours. Les salaisons haut de gamme, par exemple, le porc bio, réclamé d'ailleurs par les grandes surfaces. Enfin, il faudrait, selon lui, revoir la localisation des productions françaises, revenir à un modèle de polyculture et d'élevage qui permette de sauver, non pas une filière, mais bien des agriculteurs. Reste à convaincre ces derniers.
Et dans la presse, secteur à la peine également, on salue aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né, un site d'information sur le net. Il s'appelle Les Jours, média payant créé essentiellement par d'anciens journalistes de Libération. Avec une ligne, donner plus de temps à l'information et creuser les obsessions entre guillemets de ces journalistes. Antoine Guiral est le directeur général des Jours.
À l'origine, c'est vraiment des journalistes de Libération qui, au moment de la crise de Libé, se sont posé la question « Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur en proposant un projet ?» Et donc, il y avait l'esquisse un peu des Jours qui a été proposée à ce moment-là. Et on a très vite compris qu'on ne pourrait pas proposer ça à l'intérieur de Libération. Très vite, en fait, ce noyau dur de 9 personnes a décidé de fonder le site et de s'en donner les moyens. On a travaillé par un système d'apéro le soir où on se retrouvait et puis petit à petit, on faisait venir des gens. Ça pouvait être un scénariste, une universitaire, un économiste, des designers, des gens venant d'horizons très différents qui nous aidaient. Et puis, surtout, on a affiné vraiment le projet éditorial, proposé un média vraiment de choix qui ne prétend pas l'exhaustivité. Au niveau de l'esthétique, on a été très inspiré par des sites américains, essentiellement The Atlantic, Quartz. On a évidemment regardé ce qui se faisait dans les pure players français, le 4h, Ishberg aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impatience. On espère que ça va être partagé et que ce sera surtout bien visible sur le site.
Voilà le directeur général du site Les Jours, Antoine Guéral. Lesjours.fr s'est lancé à partir de ce matin.
Et vous avez dit, Amélie Perrier, travailler avec ses obsessions pour les journalistes, voilà qui a fait réagir notre invité de ce matin, le romancier Emmanuel Carrère. Travailler avec ses obsessions, Emmanuel Carrère.
Mais si j'ai bien compris, Amélie Perrier, c'est pas vous qui disiez travailler avec ses obsessions, c'est le site.
c'est le site
de ce...
C'est l'une des lignes.
Ouais, alors je trouve que c'est effectivement une drôle de formulation qui nous a tous fait un peu tiquer. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau et d'assez juste là-dedans, que ça a des chances d'être mieux. Un truc où d'être bien, un truc où des gens travaillent avec leurs obsessions, avec vraiment les choses qu'ils ont, qui leur tiennent absolument à cœur, ceux qui insistent, ceux qui les obsèdent plutôt que, effectivement, avoir une espèce de petit éparpillement de curiosité où on s'intéresse un petit peu à tout, être très, très centré ou obsédé par quelques trucs, j'ai l'impression qu'on a plus de chances d'écrire des choses où on creuse.
Dans quelques instants, on va revenir sur vos obsessions, Emmanuel Carrère.
On termine par le temps de ce jeudi, de la pluie, de la grisaille, de la fraîcheur, ce sont les prévisions de Météo France, de la neige même sur le Limousin et le Massif central et sur le nord des Alpes. Les températures cet après-midi, 7 degrés à Strasbourg, 8 à Paris, 9 à Lorient, 11 à Bordeaux et 12 degrés à Marseille.